Paris pour le week-end en amoureux. Vous voyez ? Imaginons un homme et une mère. L'homme, il se dit, chouette, je vais récupérer ma femme. La mère, elle dit, on aurait peut-être dû prendre le petit. Alors, vous en avez des plus malades que d'autres. Vous en avez qui soignent en une heure ou deux. D'autres, il leur faut la journée, ça passe encore. S'il lui faut trois jours, c'est mal barré pour le week-end. Mais en règle générale, l'amour reprend le dessus. Love, love. Oh, dimanche soir, on va mieux. On ne se rappelait pas que c'était si bon. Il faudra qu'on recommence. Hein. On arrive chez les amis comme des panthères roses en disant, ils vont plus vouloir nous le prendre. Hein. Il va avoir la casquette neuve en disant, la virilité, il a tout destroyé un partout. C'est un bouffon, hein, j'en veux plus, il va et tout. Bon, il parle comme ça avec la casquette. Eh bien, les amis nous attendent devant la maison en disant, qu'est-ce qu'il est gentil. Hein. Il est sage, il nous a aidés à mettre la table. À la maison, il n'en fiche pas une rame, dites donc. C'est pas le nôtre, si. Dans la voiture, il devient le nôtre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis censé vous parler de repères, oui, je suis en train. En vous disant que nos enfants qui ont besoin de repères, la plupart aujourd'hui, acceptent beaucoup plus facilement dans un premier temps des repères qui ne viennent pas directement des parents, mais qui viennent du monde extérieur. D'où le danger du huis clos, de l'isolement, n'est-ce pas? En clair, donc recherche-action. Recherche, donc psychosociologue, vous savez ce que c'est maintenant. Recherche-action, ben c'est deux choses. Une chose agréable, une chose douloureuse. La chose agréable, ça consiste à être sur le terrain. Donc je vais dans des crèches, dans des collèges, dans des hôpitaux, toujours sur le terrain, hein, pour observer un certain nombre de choses, qui fait que ce que je vous raconte et ce que je vais vous raconter là, c'est des choses concrètes. J'étais il y a peu de temps, par exemple, à Nantes, où je travaillais dans un collège avec des jeunes sur le thème « Qu'est-ce que vous attendez de vos parents ?» Ils m'ont dit des choses. Il y a une petite gamine de 13 ans qui m'a dit une phrase mémorable. Elle m'a dit « Ce que j'attends de mes parents, c'est qu'ils me donnent des conseils pour ne pas les suivre. » Ça ne s'invente pas. Hein. J'ai essayé d'avoir des précisions pour être sûr de ne pas me tromper. Elle a dit « Si mes parents attendent que je suive leurs conseils, ils sont mal partis. Mais s'ils ne m'en donnent pas, c'est moi qui suis mal parti. » N'est-ce pas ? Donc, en tant que parent, manque de bol, on est des modèles à suivre, hein, et toujours. Donc, sur le terrain, ça c'est la chose agréable, mais par contre, la chose douloureuse, c'est que recherche-action, ça consiste à faire retomber dans l'action ce qui sait au niveau de la recherche. Hein, et à ce niveau-là, Boris Cyrulnik et beaucoup d'autres font le même travail, de faire retomber dans l'action. Et là, eh ben, y a un fossé, parce que précisément en France, c'est très triste de voir qu'il y a très peu de choses qui retombent dans la pratique et que même notre système éducatif, ce qui est promu par la société, va dans le sens contraire de ce que l'on sait par rapport aux repères de l'enfant. D'où le danger, encore une fois, des moules. C'est précisément, petite parenthèse, j'y reviens en une phrase, ce qui me fait aller une fois par an au Québec, entre autres, parce qu'eux travaillent beaucoup plus en lien entre la recherche et l'action. Et c'est ce qui les fait avancer. Et les professionnels de terrain publient beaucoup, d'ailleurs. Hein, publie beaucoup. Et petite parenthèse, une des choses fortes aussi au Québec, dans le domaine de l'enfance, dont il faudrait qu'on s'inspire sans doute, c'est la capacité d'évaluer qualitativement ce qui se passe. Nous, on a des évaluations quantitatives. Taux de remplissage, la petite enfance, combien ça coûte, etc. Eux, ils évaluent aussi la qualité. Il y a des outils et que nous, on est très faiblard en France en évaluation qualitative, par définition. Donc, sur le terrain, et je vous en donnerai quelques exemples, tout ce que je vous dirai partira de données scientifiques admises actuellement, hein, tout de suite sur les repères. Alors, je vous ai à l'instant, je travaille avec des tout-petits, mais aussi avec des ados. Des tout-petits. Quelles sont les questions que se pose un tout-petit? Eh bien, un tout-petit Loupio, pendant des années, se pose une question. Est-ce que je suis aimé tel que je suis? C'est pour ça que je vous ai parlé d'histoire d'amour tout à l'heure. Est-ce que je suis aimé tel que je suis? Oui, mais rappelez-vous, dans une société où on dit qu'il faut être comme ci, comme ça, carnet d'évaluation, vous vous rappelez, à 5 ans en France, hein, à 5 ans, notre enfant doit savoir écrire entre deux lignes, en lettres cursives, attachées, carnet d'évaluation. Il y a deux pays au monde qui ont des carnets d'évaluation comme ça. C'est la France et le Japon. Et c'est le Japon qui a commencé. On y a repiqué l'idée. Hein. Dans tous les pays du monde, il y a des carnets d'évaluation. Les enfants sont évalués, mais en fonction de leur propre progression, pas de leur ressemblance à la moyenne des autres. Il m'arrive de faire assez souvent des conférences pédagogiques avec des inspecteurs académiques au premier rang. Alors, si je veux être dans la possibilité de revenir un jour dans cette académie, parce qu'il y a acquis, non acquis, en cours d'acquisition sur les carnets. Donc, si je ne veux pas être en trop mauvais terme avec l'inspecteur académique, je dis ne remplissez qu'en cours d'acquisition. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant s'est coupé sa viande aujourd'hui qu'il n'aura pas besoin d'un biberon dans 15 jours, quoi. Hein, en cours d'acquisition. En général, ça m'arrive de revenir dans ces académies. Par contre, si je n'ai pas tellement envie d'y revenir, alors j'ai une phrase clé, c'est dire aux enseignants un conseil. Je fais ma poubelle virtuelle, là, foutez au videur dur les carnets d'évaluation. Alors là, je ne reviens jamais dans l'académie, vous voyez. Mais je m'en fous, je vais dans une autre. Hein. Mais c'est ahurissant, cette histoire de carnet d'évaluation. Revenons à notre phrase. Est-ce que je suis aimé tel que je suis? Oh, c'est un boulot. Je fais sans arrêt des vérifications d'amour, on le verra dans quelques instants. Dans cette famille, pardon, il y a deux enfants. Il y a une grande fille de 5 ans qui a toutes les qualités, un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts. Vous sentez? La grande sœur, elle est formidable. Elle a un gros cerveau gauche, très logique. Vous savez, le cerveau de la logique, derrière. Je ne peux pas ramasser mes lunettes, je ne les vois plus. Donc, la grande sœur, elle a tout bon, à 5 ans, elle a tout bon au carnet d'évaluation. C'est une fille logique. Donc, à 2 ans, elle faisait des puzzles pour 4 ans. Très en avance. Elle fait des jeux éducatifs. Elle fait des activités d'éveil. Et puis, elle ment pas. Elle parle pas des masques. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah bon? Elle range ses jouets. Elle est formidable. Mais on a pas de mal à l'aimer tellement elle est bien. Mais alors on a un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts. À lui, c'est plutôt le cerveau droit, vous savez, la créativité. Il a plein de neurones à droite. Et alors, il nous a toujours déçus. Hein. Je vais être honnête avec vous. On voulait une deuxième fille. On a fait une échographie précoce. L'échographiste nous a annoncé le sexe de l'enfant. Ça s'appelle IVF, interruption volontaire des fantasmes. Mais on était déjà déçus. Et puis alors, avec sa créativité, petite parenthèse, dans notre société, on a de plus en plus besoin de ces enfants créatifs qui, après, en tant qu'adultes, savent créer des entreprises, s'adapter à des situations nouvelles et pas seulement reproduire les modèles. Oui, mais dans un système éducatif comme le nôtre, on aime bien évaluer en fonction de ce qui est comparable. Eh bien, notre petit Loupio, là, il n'y a que des défauts. Lui, alors, les puzzles, il a 3 ans, il s'en fout, hein, que ça s'emboîte ou pas. Il fait des puzzles pour 1 an, et encore, il prend une petite pièce, boum, il fait l'avion avec. Il débarge, hein. Puis il est menteur, il a un imaginaire. Il part d'une réalité, et il fait monter la pression. Puis il n'est pas très actif, il observe. Il regarde autour. Il fait des inactivités d'éveil. C'est très important. Qu'est-ce que t'as à faire? Rien. Mange bien, hein? Et puis, il n'est pas du tout, enfin, encore une fois, dans le moule. Il va porter ses dessins. Bon, je vous dis pas les dessins. La grande sœur, elle fait des beaux dessins. Vous lui mettez une fleur avec des couleurs à droite, elle met les mêmes. Et puis, elle ne déborde pas. Eh bien, lui, le créatif, il nous amène un dessin, il paraît qu'il y a un arbre. Oui, toi, c'est pas mal, continue. Bon, eh bien, c'est dur de l'aimer, celui-là, hein, parce qu'il est quand même pas comme la sœur. D'ailleurs, petite parenthèse, cet enfant, il va même être pris un peu par le système. Hein, il va entendre peut-être à l'école, dis donc, heureusement qu'il y a ta sœur dans la famille, n'est-ce pas? Il va même être jugé négativement en fonction de ses compétences. Il va porter des noms différents. À la crèche, il va s'appeler imaginatif. À la maternelle, il va s'appeler créatif. Quand un institut ne comprend pas un gamin, soit qu'il est créatif, soit qu'il a un problème. Donc autant qu'il soit créatif. Mais très vite, il va s'appeler rêveur, inattentif. Il peut même s'appeler psychotique. Je vous jure, hein, j'en ai vu un il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, c'était la mode, hein, le psychotique. Tous les 10 ans, il y a des mots différents. Actuellement, il y a 3 mots modes. L'enfant qui est un petit peu énergique, on parle d'hyperactivité. L'enfant qui n'est pas encore tout à fait prêt à lire, peut-être un peu de dyslexie. Hein. Et l'enfant qui est un peu timide, on parle un petit peu d'autisme. Vous voyez, vous avez des parents, quoi, un enfant autiste, dyslexique et hyperactif. Hein. À la maison. Il faut qu'ils attendent 10 ans, ça sera autre chose. Il y a 10 ans, c'était les psychotiques. Celui qui avait lancé la mode, c'était un clown analyste américain, Howard Button, qui avait écrit un livre « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », qui habite Paris, qui fait des stages, et qui nous avait, j'ai eu la chance d'aller à un de ses stages, qui nous avait dit, vous devriez essayer le psychotique, c'est très intéressant. Bon. Tous mes potes en avaient trouvé un. Alors, Howard Button nous avait expliqué qu'il fallait regarder les yeux de l'enfant psychotique, parce qu'il y avait un peu les yeux dans le vague, enfin, il y avait des petits trucs qui indiquaient que, peut-être. Tous mes potes en avaient trouvé un, j'étais le seul à ne pas avoir de psychotique. Oh. Un jour, je vais dans une école maternelle, dans une grande section, l'instit me dit, vous tombez à pic, on a un psychotique. Content, hein. Je n'ai pas trop manifesté la joie, mais je vois. Et elle me montre, c'était un petit garçon de 5 ans, qui se mettait, m'a-t-elle dit, il était en train de le faire, régulièrement devant la baie vitrée, et qui regardait comme ça. Oh, je me dis, c'en est un. Alors, je vais quand même regarder les yeux, dans le vague, s'il avait les yeux que nous avait dit le spécialiste de la psychose. Pas du tout. Il avait des yeux mitraillettes, le loup, qui regardait dehors. Qu'est-ce qu'il regarde? Je le pousse. C'est une école publique à tout le monde. Et donc, je me retiens. Ne dites pas que j'ai dit, ma femme, elle avait marqué, ne le dis pas. Quand j'ai le truc en rouge, elle est instite. Terrible d'être mari d'instite d'ailleurs. Hein. Elle fait toujours du cake pour 30 parents pour les réunions. Il y en a que 5 qui viennent et nous on bouffe le cake pendant 3 semaines. Vous voyez le vide un peu, le mari d'instite devrait. Bon. Donc, moi qui fais collection de kaléidoscopes, je me retrouve à la place où était le gamin, devant un gros défaut dans la vitre. Il suffisait de bouger un petit peu. Vous aviez les arbres qui dansaient des danses balinaises derrière. On était devant un créatif. Là, si, t'as vu les jetons d'ailleurs. Puis au bout de quelques secondes, j'étais comme ça devant la vitre. J'ai dit, bon sang, le psychologue a chopé la psycho. On n'aurait jamais dû prendre un handicapé en classe. Donc, est-ce que je suis aimé tel que je suis? Eh bien, face à la dictature des moules, des performances, de la précocité qu'on a évoquée à plusieurs reprises, grande sœur très talentueuse, petit frère, tous les défauts, n'est-ce pas? Est-ce que je suis aimé tel que je suis? Eh bien, cet enfant, il va peut-être, on va l'aimer, on va lui dire, regarde ta sœur. Il va peut-être à l'école entendre dire, comme on l'a dit tout à l'heure, heureusement qu'il y a ta sœur, n'est-ce pas? Il va en permanence être comparé. Je rencontre souvent des adultes avec qui je parle de ça et qui sont poursuivis toute leur vie par cette comparaison, soit en étant comparé en négatif, soit en étant un modèle en positif. Quand je vais dans des familles, et enfin travailler dans un milieu familial, et que je vois cette situation, je laisse toujours ma carte de psy, parce que ça peut rapporter des clients, ce truc-là. C'est vachement bien, et ça rapporte 2 clients d'un coup. Le petit et la grande sœur. Pourquoi? Le petit, parce que par définition, il va être fragilisé par le fait de ne pas être aussi bon que la sœur. Mais cette grande sœur très talentueuse, on en trouve de plus en plus dans notre société, construction des repères, c'est-à-dire des enfants qui ne se sentent aimés que quand ils sont les meilleurs, qui ont peur de l'échec, n'est-ce pas? Petite parenthèse, j'ai une copine pédopsychiatre, Hélène Romano, qui fait un boulot extraordinaire, elle s'appelle Romano, mais on la garde parce qu'elle est psychiatre. Et elle est très bien. Si vous regardez sur Internet, Hélène Romano, R-O-M-A-N-O, vous verrez tous les bouquins qu'elle écrit. Elle fait des bouquins formidables sur les jeux dangereux. Et elle montre que dans notre société, le phénomène de souffre-douleur, le phénomène de harcèlement entre enfants, est en train de grimper en flèche par le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui ont peur de ne pas être à la hauteur, y compris des petits à l'école, hein, et qui se regroupent à plusieurs pour humilier un tiers. Vous rajoutez à ça les nouvelles technologies, etc. N'est-ce pas ? Donc, quand je vois cette situation, ça me fait 2 clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette grande gamine, construire des repères, cette gamine, il faut lui apprendre que c'est pas grave de perdre. Qu'elle peut gagner, mais que perdre, c'est pas grave. N'est-ce pas ? À ce niveau-là, j'encourage vivement les parents à faire jouer les enfants avec les mamies. Parce que souvent, les mamies, elles n'aiment pas paumer non plus. Pas toujours, hein, mais souvent. Donc, les deux truandent pour gagner. C'est extrêmement éducatif, et les mamies, hein, de jouer ensemble. Petite parenthèse, d'ailleurs, juste une parenthèse en une phrase. Mon objectif à ce stade, c'est que vous ne sachiez plus du tout où vous en êtes. C'est bon, là. Après, ça va devenir clair, vous allez voir. À propos de perdre, j'ai vécu il y a 4-5 ans un très grand moment. Vous savez, plusieurs années de suite, il y avait eu des évaluations à l'éducation nationale, le niveau des enfants de CE2, CM1, etc. L'année dont je vous parle, c'était l'année cours élémentaire, 2e année. le même jour, en France, tous les enfants de CE2 avaient des tests à faire pour savoir évaluer leur niveau. Ce jour-là, j'étais allé voir comment ça se passait. J'habite sur Paris, j'étais allé dans une école dans le 20e arrondissement voir comment se passait le test de CE2. CE2, c'est des petits loupiaux, hein, ils sont pas grands. C'était un homme, l'institut. Alors il dit aux enfants, voilà, nous allons tester machin truc. Le premier test, c'était une série de mots. Il fallait trouver le contraire du mot. Alors il dit, voilà, vous allez trouver le contraire. Il y avait 10 mots. Le premier, c'est le mot compréhensible. CE2. Alors il me regarde, c'est pas gagné d'avance, hein, compréhensible. Et alors, un petit gars soulève lève le doigt, premier rang, il dit, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire compréhensible? Alors l'institut soulagé, il dit, c'est une très bonne question. Voilà, je t'explique. Quand je t'explique quelque chose et que tu comprends, c'est que c'est compréhensible. Donc, le contraire, c'est quand tu comprends pas. Quand je t'explique quelque chose que tu comprends pas, c'est quoi le mot? Le mot me réfléchit. Et d'un seul coup, son visage s'allume. Je sais, mon père, il me l'a dit. Ah, c'est quoi le mot? Ben, il dit, quand je comprends pas, mon père, il m'a dit, c'est pas grave. Il a eu 0. Hein? C'était pas le mot. Hein? Donc, perdre. Apprendre à perdre. Est-ce que je suis aimé tel que je suis? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, pas de différence avec l'ado. Parce que l'ado, il y a un bébé qui est planqué dedans. Hein? Je suis amusé quand j'entends dire, il y a à peu près qu'en France où on nous dit ça. L'adolescence est une période de crise. Définitive. Il y a en France un observatoire de la santé des ados qui tous les ans publie des chiffres et qui montre que les 3/4 vont bien. Ça veut dire qu'un quart va pas bien, et on le décompose en 2 moitiés, une moitié chez qui ça se voit, une moitié chez qui ça se voit pas. Mais les 3/4 vont bien. Par contre, en France, on nous dit, l'adolescence est une période de crise. J'adore ça, je fais pas mal de confs sur les ados, et à chaque coup, l'autre jour j'étais sur Lyon, conf sur les ados, il y a une maman qui vient me voir après, avec sa fille de 15 ans, elle me dit, j'ai élevé ma fille seule, elle a 15 ans, elle a toujours pas fait sa crise. Tous les jours, elle regardait la SWAT en disant, heureusement, la gamine était là, je lui ai suggéré de se faire une petite crise. Alors, la maman était plus loin, on a élaboré ensemble la crise. Je lui ai dit, tu sais, une petite fugue, ça serait bien. Et elle me dit, oh, et puis je vais débrancher mon portable. Et elle met, à un moment donné, elle me dit, hey, encore un truc mieux, je vais envoyer un texto marqué, j'ai pas demandé à vivre. Alors, elle a fait ça, apparemment, elle comptait faire ça. La mère était rassurée après, hein, une fois. Elle me dit, je reviendrai dans 3 jours. Ça devrait aller 3 jours, hein, pour qu'elle fasse sa crise. Plus récemment, j'étais en Seine-et-Marne à Meaux, conférence sur l'adolescence, et il y a une dame d'une 40aine d'années qui vient me voir après la conf et qui dit « Mon mari a 40 ans, il n'a jamais fait de crise d'adolescence, vous croyez que ça peut lui faire maintenant ?» Alors, là j'ai été moins sympa, j'ai dit « C'est possible, mais il faut être patiente, ça s'appelle le démon de midi, ça peut être assez long. » Vous voyez. Donc, l'ado... Eh bien, l'ado, il y a un bébé dedans. Session de rattrapage. Il a encore du boulot de bébé. N'est-ce pas? C'est la pub Evian. Vous vous rappelez, hein, le bébé qui est planqué à l'intérieur, la pub qu'on voyait l'an dernier. Alors, l'ado, il est double. Il n'est pas en crise, mais il a un pouvoir magique. C'est de se réveiller adulte, se coucher bébé ou inversement. Vous avez 2 pour le prix d'un. Hein? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les ados, avec ce bébé qui les dérange encore, hein, petite parenthèse d'ailleurs, vous savez, en psycho, quand on parle des repères chez l'enfant, on a des belles expressions, pas si compliquées que ça. Il y a une expression que j'adore dans notre jargon de psy. Toutes les étapes du développement d'un enfant, on appelle ça un triomphe nostalgique. Je trouve ça magique. Triomphe. L'ado va devenir un adulte, oui, mais je vais plus pouvoir être un gamin. Nostalgique. C'est toute la vie, hein, triomphe nostalgique. On bosse toute une vie en disant « un jour je serai en retraite ». Oh, si ça existe encore. On se retrouve en retraite. Triomphe, à ce bout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nostalgie. Hein? Donc, l'ado, il regarde devant, mais il regarde dans le rétro. Hein? Il est petit. Il fabrique des phéromones mâles, notre ado. Des phéromones femelles. Des odeurs très sexuées. Mais il a besoin de son nana ou doudou ou pâte en Suisse. Le truc qui pue, qui sent le père, la mère, le chien, la grand-mère. Sniffer un petit coup, n'est-ce pas? Donc l'ado, il est double. Tu sais, vous avez 2 pour le prix d'un. Eh bien, c'est très simple, l'ado, pour les psys. Il se pose 2 questions contradictoires qui doivent avoir la même réponse. Incompréhensible, ce que je viens de vous dire là. Ça va devenir lisible. Première question de tout ado. Est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? Deuxième question, est-ce bien vrai que je suis tombé sur les plus nuls? Dans les deux cas, la réponse doit être positive. Vous voyez que c'est simple, hein? Et même, je suis même pas sûr, je vais être honnête avec vous, c'est pas tellement possible que ce soit mes parents, quoi, parce qu'ils sont vraiment moches. Hein. Pas possible que des gens moches comme ça aient fait quelqu'un d'aussi beau que moi. J'ai dû être adopté. Mes vrais parents, ils sont ailleurs. Un jour, je les retrouverai. Pour l'instant, je vais faire avec cela. Hein. L'ado est simple. Hein. Si vous avez les ados à la maison, vu le bébé qui est dedans, il parle à l'envers. C'est tout. Il se pose les mêmes questions que le bébé, mais il ne peut pas les dire. Par exemple, il se demande si on l'aime. Mais il ne va pas dire ce que vous m'aimez. Donc, il va dire, comme la petite gamine rencontrée à Lyon, « j'ai pas demandé à vivre. » N'est-ce pas ? Ou bien il va dire « je veux un scooter. » On va bien voir s'il m'aime. Scooter, c'est vachement dangereux. Manque de bol, les parents. 68 arts, New Age, bicyclette mauve, panier en osier, bouffe bio, pose de joint dans le cendrier, génial, t'en veux un de quelle couleur ? Oh ! S'en fout de tout, c'est vachement dangereux. Il m'aime pas. Non, non. Une histoire d'amour commence. T'as pas de scooter, on te connaît, toi. On a trop peur qu'il t'arrive quelque chose. Vous êtes des nuls. Bon, je m'enferme dans ma chambre, je fais le plein d'amour. Ça dure un jour, deux jours, le plein d'amour. Une fois que j'ai commencé le plein, je me dis, bon... je vais ressortir. Et mon scooter, t'en auras pas, tu roulerais sans casque, vous êtes des ringards. Bon, ça peut mettre 6 mois, 1 an, c'est variable, plein d'amour. Mais il nous le dit quand il a fait le plein. Hein. Il dit, voulez pas m'en acheter un, je vais en piquer un. Et donc on y achète, mais il mettra pas le casque. Vous voyez, enfin, c'est normal, il parle à l'envers. Et puis il nous aime. Ça le gonfle de nous aimer tant, l'ado. Alors il nous envoie un SMS, je vous hais. Oh, c'est ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il nous déteste tant. Mais non, c'est une déclaration d'amour. J'ai un collègue psychiatre dont je suis très jaloux parce qu'il a un contrat actuellement avec la prévention routière pour étudier la conduite accompagnée. La question qui lui est posée, c'est dans la conduite accompagnée, qui accompagne qui ? Ça fait presque un an qu'il bosse là-dessus. Je suis sûr qu'il a fini son étude. Il ne veut pas nous dire le résultat. Il dit, vous allez voir, je ne vais pas tarder à le publier. C'est très troublant, le résultat. D'accord ? Donc, bébé, encore une fois, ado. Est-ce que je suis aimé ? Qui je suis ? Etc. Alors, précisément, vous avez encore 5 minutes, là ? Ouais, et ben on va aller très vite vers les choses sérieuses. Je vous disais, aider... Alors, rôle des parents, rôle des professionnels, aider nos enfants à construire des repères. Eh bien, pour aller dans le sens des repères individuels, il faut déjà bien intégrer le respect des rythmes de l'enfant. Je parlais tout à l'heure de la recherche. À quel âge un enfant marche ? À quel âge un enfant est propre ? À quel âge est-ce qu'il maîtrise les bases de la lecture ? Notre travail, c'est de s'emparer de travaux de recherche et de les rapporter à l'extérieur. La marche. Beaucoup de travaux ont été faits et qui ont montré que pour qu'une acquisition se fasse, par exemple la marche, il faut qu'il y ait plein de petites acquisitions de base qui soient mûres. Et qu'il peut y avoir des décalages horaires considérables entre une acquisition et une autre. Pour qu'un enfant marche, il faut qu'il ait une bonne force, un bon équilibre, qu'il en ait envie. Envie, ça veut dire, par exemple, s'il est chez l'assistante maternelle à la maison ou à la crèche, lui mettre des mobiles, l'appeler vers le haut. Si tout est par terre, ça ne sert à rien de se mettre sur les pattes de derrière. Qu'il ait une bonne calcification du squelette. Hein, si vous avez un bébé à la maison, qu'on lui fait une radio, sautez pas par la fenêtre. Hein. Un bébé, vous avez un bout de cartilage, un bout d'os, un bout de cartilage, boum, boum, boum. C'est pas encore calcifié. Hein, il n'est pas cassé de partout. Il faut tout ça. Mais il peut y avoir... des décalages, il y a toujours des décalages considérables entre une acquisition de base et une autre. Prenons un exemple. Un petit loupio, mâle ou femelle, qui a une bonne force et un bon équilibre à 11 mois. Il se met debout à 11 mois. Mais s'il n'a pas un squelette assez calcifié, il va continuer à marcher à 4 pattes. Parce qu'il ne peut pas marcher. 11 mois, il est debout. On téléphone à la grand-mère, il va marcher de bonne heure, c'est un surdoué. 12 mois, la grand-mère qui vient en taxi avec un gâteau et il continue à marcher à 4 pattes. Nous, une famille de travailleurs, on a donné naissance à un feignant. Il ne veut pas marcher. Alors on y achète un Youpala avec tablette numérique. Ça n'existe pas encore, mais ne dites pas autour de vous, ça pourrait donner des idées. Hein. Et en avant, marche. La plupart de ses enfants, le premier métier que j'ai exercé était d'être kiné. Et j'en voyais plein des gamins qui se déformaient complètement les pieds. Parce qu'ils étaient mis en charge trop tôt. N'est-ce pas ? J'ai très vite perdu ma clientèle en disant aux gens, on arrête tout, avec la brosse à dents, on gratouillait. On fait que dalle, vous me rappelez dans 3-4 mois, et on fait le point. 3-4 mois après, il rappelait, et il disait, ben ça y est, il marche, et les pieds tournent pas. Parce qu'il était prêt à être debout. À quel âge un enfant marche ? Tous les travaux de recherche actuellement, à qui nous disent entre 10 et 21 mois. D'accord ? Il est normal qu'un enfant marche à 10 mois s'il est prêt. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure, les données connues, hein, ce n'est pas des travaux en cours, devraient rassurer les parents. N'est-ce pas ? La propreté. La propreté. Oh, la vessie est le seul organe qui a le courage de ses opinions. Vous avez remarqué, ça prend n'importe comment. Eh bien, il en faut des choses. Au début, ils font ça n'importe comment. Mais dans un premier temps, alors, il y a plein de synapses, vous savez, les soudures au niveau du ciboulot. Dans un premier temps, ce qui se développe, premier, c'est des radars sensibles à la distension dans la vessie. Distension, c'est la zone temporale. Ça titille là. Oh là là, ça se distend. Il y a une autre soudure qui se fait avec la zone frontale, zone du langage, quand ça se distend, il faut que je dise pipi. Grand progrès. J'ai 2 ans, je dis pipi. Il y a une autre synapse, soudure, qui s'installe avec la zone occipitale, zone de contrôle des muscles lisses, les sphincters. Quand ça se distend, il faut que je dise pipi, il faut que je resserre les sphincters. Progrès encore, ça disparaît avec l'âge, ça. On se regarde, enfin, il y a un certain temps. C'est... Bon, ça veut dire que pour qu'un enfant soit propre, il faut des données sensorielles, motrices, intellectuelles, affectives. Il est propre, puis une petite sœur qui se pointe, pouf, d'accord. À quel âge un enfant est propre? Eh bien, ce qui nous est dit actuellement, c'est entre 2 et 6 ans. D'accord. Et là, je vous parle de choses acquises. Il est normal qu'un enfant soit propre à 2 ans, s'il est prêt. Il est tout aussi normal qu'il ne soit pas propre à 5 s'il n'y est pas prêt. Si vous avez un enfant de 5 ans qui fait pipi au lit, bon, vous allez voir peut-être un médecin qui fera faire un petit examen organique, voir s'il n'y a pas de problème. 99 fois sur 100, il vous dira il n'y a pas de problème, il n'y est pas prêt. Et si ce médecin est sérieux, il vous dira vous ne pouvez rien faire pour le mettre en avance, par contre vous pouvez tout faire pour le mettre en retard. Si vous déclenchez de l'angoisse, si vous... mettez au lit le soir en disant « pourvu qu'il ne fasse pas pipi au lit, on augmente nos chances ». Si le problème devient le problème central de toute la famille. En pharmacie, en France, on vend des alaises siffleuses. Vous pouvez acheter ça quand il y a une trace de pipi dedans, ça fait une petite musique, vous voyez ? Pavlov. Hein ? Au Japon, c'est mieux, il y a Mashima qui vend des couches siffleuses. Bleu pour les garçons, rose pour les petites filles, c'est le pipi ludique. Quand il y a une trace de pipi dedans, ça chante. Un peu inquiétant. Donc, si vous voulez, vous voyez pourquoi j'insistais auprès de vous sur l'aberration, mais on est tous pris dans ce piège, de dire il faut qu'il soit propre à 2 ans pour entrer tôt à l'école. N'est-ce pas ? Ça semble se calmer un peu, mais ça met du temps. Or, tout ça est un non-sens. Je ne vais pas développer avec vous toutes ces questions des rythmes. Je vous en donne un dernier. Dans le groupe de travail où on est, il y a un gars, Alain Bentolila, qui est linguiste, qui est prof au Collège de France, qui est papa du Becherel, et qui, avec plusieurs équipes, travaille sur la lecture, la complexité de savoir lire. C'est 3 choses, la lecture. Hein, c'est savoir déchiffrer, comprendre et aimer. Hein, et ça commence par aimer, de façon à pouvoir comprendre après. Hein. Ce que montre Bentolila, c'est que la lecture... c'est entre 4 et 9 ans. Comprenez bien. Il est normal qu'un enfant maîtrise des bases de lecture à 4 ans s'il est prêt. Par contre, il est normal qu'à 7-8 ans, il ne maîtrise pas encore bien les bases, ce qui en soi ne présume rien de ses futurs talents de lecteur, sauf si, tiens, dans notre poubelle, on avait mis les carnets d'évaluation tout à l'heure, et ben on va mettre en avance, en retard. N'est-ce pas ? Notre société, je parlais tout à l'heure de Moule, est faite construite autour des enfants moyens, n'est-ce pas ? Or, certains enfants, en toute normalité, ont besoin de plus de temps que d'autres pour apprendre, et d'autres de moins de temps, n'est-ce pas ? Sauf que les enfants qui ont besoin de moins de temps, on les appelle précoces, ceux qui ont besoin de plus de temps, on les appelle en retard, ce qui est une vaste fumisterie. Alors, repère individuel, on va aller très vite. Principe de plaisir. Je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Un enfant naît avec des rythmes, avec des rites, avec des modes d'intelligence. Dans les repères individuels, notre enfant, il va grandir. Il va avoir besoin de rituels. J'adore étudier les rituels, les objets dits transitionnels, qui vont lui permettre de grandir. Très en rapport avec la sensorialité prioritaire. Tous les enfants du monde, sauf handicap, sont audio-orniflo, tacto-gusto-visuel, je vous redirai. Mais chacun a des sens uniques et des sens interdits. Vous avez des grands renifleurs, des grands toucheurs, des grands voyeurs, des fois ça reste. Hein. Même aux États-Unis. Hein. Et je parle de Trump, là. Et en fait, en fonction de sa sensorialité prioritaire, bien, l'enfant, il va choisir un objet transitionnel. Oh, c'est un grand goûteur. Les papilles, c'est son truc. Il a besoin de sa tétine ou totote. Docteur, à quel âge lui supprimer? La réponse du docteur, jamais. Foutez-lui la paix. Quand il sera foutu de lui par les autres, eh ben, il ne la prendra plus ou il t'aidera.